Vous êtes sur RTL.
Bonsoir, c'est Jean-Alphonse Richard. Grand plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de l'heure du crime. Vous retrouverez très bientôt Jacques Pradel aux commandes de cette émission où l'on feuillette la chronique criminelle sur RTL du lundi au jeudi de 20h à 21h. Heure du crime où ce soir nous allons explorer un mystère, l'énigme Jonathan Daval. Il y a un peu plus de 2 ans, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à Grès-la-Ville, en Haute-Saône, cet informaticien frappé violemment puis étranglé son épouse Alexia, 29 ans. Pendant 3 mois, Jonathan Daval affichera son visage dévasté, celui d'un veuf éploré, avant que l'incroyable vérité ne surgisse, que l'enquête le présente comme l'auteur du crime et qu'il se retrouve placé en détention. Si nous évoquons ce soir l'affaire Daval sur RTL dans l'heure du crime, c'est que la justice vient de mettre un point final à l'instruction. L'instruction est clôturée. Tout ce qui a été utile à la manifestation de la vérité a été demandé, disait la semaine dernière le procureur de la République de Besançon. Il y aura donc courant 2020, un procès pour Jonathan Daval, un procès très attendu pour cette histoire qui a passionné la France entière et qui devra répondre, on l'espère, aux raisons pour lesquelles il est passé à l'acte. Les juges et les jurés devront sonder les silences, les non-dits, l'exaspération qui s'était peut-être emparée du jeune couple dans le huis clos de leur maison de Grès-la-Ville. Jonathan Daval est-il le manipulateur capable de jouer la plus tragique de ses comédies auprès de sa belle-famille? Est-il un dissimulateur capable de verser des larmes en public lors des obsèques et de répéter à qui veut l'entendre que Alexia était toute sa vie? Ou simplement un homme banal qui a basculé dans la folie le temps d'une soirée. Ce soir, dans l'heure du crime, nous allons essayer de savoir quel est l'homme qui, dans quelques mois, se présentera devant les juges et surtout quelle vérité il livrera lors de son procès. A tout de suite, dans l'heure du crime.
C'est parti pour le script. RTL.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
On se retrouve donc dans l'heure du crime, c'est Jean-Alphonse Richard. J'ai l'honneur de remplacer pour quelques jours Jacques Pradel, que vous retrouverez très vite dans ce rendez-vous. Heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Daval.
Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser dans nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. De tous ces moments autour du sport, aucun n'aura été plus intense, plus riche en émotions à mes yeux que nos runs du week-end où seules les notions de partage et de plaisir nous importaient. La force de notre couple nous faisait nous dépasser dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement.
Ce 5 novembre 2007, Jonathan Daval, la voix étranglée par les sanglots, frissonne sur une petite estrade dressée à Grès-la-Ville. Il est entouré de ses beaux-parents, le père et la mère d'Alexia, qui le soutiennent. Une heure auparavant, Jonathan avait défilé dans les rues à la tête d'une manifestation silencieuse, une rose à la main. Depuis que le corps d'Alexia a été retrouvé dans un bois proche du village, le bois des Moulins, Jonathan Daval, ce jeune informaticien discret et attentionné, est brisé par la douleur. La plupart du temps, incapable de s'exprimer. Le 28 octobre, vers midi et demi, il avait signalé la disparition de son épouse aux gendarmes, parti selon lui faire son jogging quotidien. Le corps d'Alexia sera découvert 2 jours plus tard, en partie calciné, dissimulé à la hâte sous un tas de branchages. Pas de place au doute, Alexia a été tuée. Malgré la peine qu'il affiche, Jonathan Daval est secrètement le suspect numéro 1 dans la mort de son épouse. Les gendarmes sont persuadés qu'il ne dit pas la vérité. Ses déclarations sur la nuit précédant la disparition sont un peu trop désordonnées. 3 mois après la découverte du crime, le 30 janvier 2018, après 30 heures de garde à vue, Jonathan Daval craque. Il avoue, il a tué Alexia, mais dit-il, c'était un accident. Bonsoir Nicolas Bastuc.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, consacrée donc à l'énigme Jonathan Daval. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le Point, vous avez longuement enquêté sur cette affaire et notamment révélé la deuxième expertise psychiatrique très riche et éclairante de Jonathan Daval. Ce choc incroyable quand la France entière apprend que c'est ce mari en larmes qui est en fait le meurtrier de sa femme. Je dis incroyable.
Oui, c'est vrai que cette bande-son que je n'avais pas entendue depuis un certain temps est très très édifiante. Ce qu'il faut dire, je ne suis pas du tout l'avocat de Jonathan Daval, mais c'est que là, à ce moment-là, quand il parle, il est pris dans la spirale du mensonge. Il l'explique d'ailleurs aux enquêteurs qui lui demandent en gros pourquoi un tel cinéma. Il explique que lui n'a rien demandé, ni les marches blanches, ni les battues, ni de faire un discours, que ce sont ses beaux-parents qui l'ont poussé à parler et que c'était pour lui un vrai calvaire que d'affronter la population et les médias. Donc, à cette époque, il ment parce que il a fait le choix, très contestable évidemment, sur le plan moral, de ne pas se livrer aux gendarmes dès le lendemain et de mentir. Mais à partir du moment où il a décidé de mentir, il est obligé de continuer d'une certaine manière.
Dans cette spirale que vous décrivez, il est face à son propre miroir à ce moment-là, mais on se demande comment il arrive à tenir le choc avec ses beaux-parents qui l'entourent, cette foule autour de lui.
On le voit, alors c'est toujours facile de dire ça après coup,
c'est vrai.
Mais on voit quand même que son visage se tord, il grimace, il cherche ses mots, et puis il a des drôles de formules aussi, quand il dit par exemple « Alexia était mon oxygène », c'est un petit peu curieux comme formule, il est littéralement porté par ses beaux-parents, et on sent qu'il n'a envie que d'une chose, c'est de se mettre dans un trou, et il est obligé d'exposer son chagrin. Alors il pleure aussi sur lui-même, hein, sans doute, et sur le sort qui l'attend.
C'est vrai. Alors vous dites, Alexia était mon oxygène, il est en apnée, Jonathan Daval, à ce
Absolument.
Moment-là. Hein. Quelles ont été ses premières explications qu'il a livrées aux enquêteurs pour expliquer son geste? Qu'est-ce qu'il dit, ses premiers mots?
Alors ses premiers mots, il dit qu'il attendait sa femme, qu'il avait fait le ménage, mis la maison en ordre, comme il en a l'habitude, et qu'elle n'est pas revenue ce samedi matin, qu'il lui a envoyé des textos, qu'il a fait un petit peu le tour de ses proches, et qu'il n'a aucune nouvelle, et donc à midi, il se rend chez les gendarmes. Mm-hmm. Ce qui est très curieux, c'est qu'il est convoqué à nouveau le soir, pour une deuxième audition, cette fois-ci à l'initiative des gendarmes, et là, dans une déposition fleuve que Le Point a révélée il y a quelques semaines, vous retrouverez peut-être le papier, il se plaint. Il se plaint de son sort, il se plaint de sa vie conjugale, il se plaint de sa femme. Et d'une certaine manière, tout est dit dès le soir. Et j'ai le sentiment que les gendarmes, dès ce soir-là, c'est-à-dire le lendemain de la disparition, sont convaincus que c'est lui l'auteur.
C'est la première fêlure donc, qui apparaît très vite dans le dossier. Jonathan Daval, dont on ne sait pas grand-chose, cet homme-là jusque-là au-dessus de tout soupçon, ce gendre idéal pour ses beaux-parents, ce gentil mari qui était peut-être prêt à fonder une famille, qui est donc ce monsieur tout le monde qui a pourtant tué et tenté de dissimuler son geste, le portrait d'un improbable meurtrier, c'est tout de suite dans l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. RTL. L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Retour ce soir dans l'heure du crime où l'on essaie d'éclaircir un mystère, le mystère Jonathan Daval. Pourquoi a-t-il donné la mort à son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, alors que rien ne laissait présager un tel acte de folie de la part de ce jeune homme, bien sous tout rapport, un garçon qui ne s'est jamais fait remarquer. Entre Jonathan, fils d'une famille nombreuse de Gré-la-Ville, et Alexia, la vie semble destinée à se dérouler paisiblement. Le couple s'est connu et partage la même passion pour le footing. On les voit souvent partir ensemble en forêt. Jonathan ne parle pas beaucoup, mais ce n'est pas un homme taciturne. Il a un BTS d'informatique. Il travaille depuis une dizaine d'années comme technicien de maintenance dans la même entreprise de la région. Son patron l'affirme à l'époque au journal Le Parisien. On sait qu'il est incapable d'une telle chose, c'est quelqu'un d'une gentillesse, vous n'imaginez même pas. Un membre de la famille ajoute, Alexia n'a jamais laissé transparaître qu'elle était malheureuse. Une maison discrète, une vie rangée, quelques sorties au restaurant. Voilà pour le décor de ce couple qui n'attire pas l'attention et ne fait pas de bruit. C'est une façade, car bien sûr les choses sont beaucoup plus complexes. Pour preuve, ses premières explications en garde à vue, Olivier Bois est l'envoyé spécial de RTL.
D'abord, la nuit du meurtre en garde à vue, Jonathan a raconté cette énième dispute qui éclate entre eux quand ils rentrent du dîner familial. Une crise de trop, des mots de trop, des mots qu'il vit à nouveau comme une humiliation. Dans la foulée, une bagarre et le meurtre d'Alexia. À 1h30 du matin, il va chercher sa voiture professionnelle qui est garée à l'extérieur pour la rentrer dans son garage. Son scénario d'une dissimulation, d'une mise en scène se met en place. Alexia, selon les dires de Jonathan, était déjà changée. Elle était en short et en t-shirt. Il lui met des baskets et il va ensuite attendre tout le reste de la nuit. À 8h, après avoir porté Alexia dans la voiture, il part et dépose son corps dans ce petit bois. Et il continue ensuite à tenter de consolider son alibi. Comme si de rien n'était, il part voir sa mère, il part voir son patron, il va voir en dernier les parents d'Alexia. Et il commence à jouer sa comédie du mari inquiet de ne pas voir sa femme rentrer. Il lui envoie même des textos pour donner le change. Et c'est finalement après midi qu'il va prévenir les gendarmes. Voilà le scénario d'une mise en scène montée en quelques heures, de mari inquiet à Marie éplorée. Il aura tenu son rôle pendant 3 mois avant de craquer mardi après-midi en toute fin de garde à vue.
Un mari inquiet, nous dit Olivier Bois. Nicolas Bastuc, notre invité dans l'heure du crime sur RTL, au vu des éléments de l'enquête et des interrogatoires de Jonathan Daval, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce couple qui paraît parfait ?
Des petites choses ne vont pas et puis des problèmes plus graves. Alors, les petites choses, c'est qu'il fait toujours le ménage, il débarrasse toujours la table, même quand il est invité, et ça agace profondément Alexia. Mm-hmm. Elle, à contrario, est obsédée par son poids, pèse tous ses aliments, va courir dès qu'elle mange une raclette, et ça l'agace aussi. Il y a des petits problèmes d'argent aussi. Ils ont 11 000 euros sur leur livret d'épargne, ils vivent confortablement, mais elle lui reproche de ne pas participer assez aux dépenses du ménage. Là, on retrouve peut-être la personnalité obsessionnelle dont on parlera tout à l'heure et qu'a mise en évidence les psychiatres. Ça, c'est pour les petits problèmes du quotidien. Le problème de fond, c'est...
Parce que j'allais vous dire, on ne tue pas quelqu'un pour avoir débarrassé la table.
Absolument, non. Alors, il y a un problème social aussi, c'est-à-dire que les deux ne sont pas du même monde. Elle est un petit peu plus bourgeoise que lui. Lui est issu d'un milieu très modeste. D'ailleurs, il va voir ses...
Famille nombreuse.
Il va voir sa mère et son beau-père en cachette, parce qu'elle ne veut plus voir ses beaux-parents. Les parents d'Alexia sont plus aisés, ils tiennent un commerce prospère, elle est adjointe au maire. Et donc, on n'est pas du même monde, dira un des frères de Jonathan Daval.
Et est-ce qu'on lui fait sentir ça, à Jonathan Daval ?
Pas trop, ses beaux-parents étaient vraiment
sympathiques
et l'aimaient comme un fils, c'est en tout cas ce que dit monsieur Fouillot, et on n'a aucune raison de ne pas le croire. Ils ont beaucoup aidé le couple d'ailleurs, en l'aidant à racheter la maison de la grand-mère. Alexia voudra une piscine, il fera creuser une piscine, et donc il essaiera autant que faire se peut de satisfaire les désirs de sa femme. Sauf que le désir fondamental d'Alexia, c'est un désir de grossesse, de maternité.
C'est le désir d'avoir un enfant. Alors, est-ce que cette question centrale, Nicolas Bastuc, est-ce qu'elle a pesé dans le comportement du jeune mari, comportement violent ?
On peut le penser, car ils ne parviennent pas à avoir un enfant. Est-ce que c'est du fait d'Alexia ou est-ce que c'est du fait de Jonathan ? On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'elle prenait un traitement, que ce traitement, selon lui, la mettait dans des états qui n'étaient pas son état normal, la rendait agressive, explique-t-il. Il explique également que la famille, et elle en particulier, lui mettait une énorme pression pour accéder à son désir de maternité, et ça ne fonctionnait pas.
Est-ce que c'est quelqu'un, finalement, Jonathan Daval, qui a été dépassé par les événements ? Par toutes ces obligations qui semblaient lui arriver dessus.
Je ne sais pas si on peut se laisser dépasser comme ça sans en avoir une prédisposition, ou en tout cas sans avoir en soi une part de violence contenue, refoulée ou intérieure importante. Tout le monde ne passe pas à l'acte, il faut battre en brèche cette idée. Mais c'est sûr que cette question de la grossesse a pesé lourd. On disait tout à l'heure que quand Jonathan Daval est interrogé dès le samedi, donc le lendemain des faits, par les gendarmes. Il dit ceci: quand elle prenait son traitement, elle avait parfois des accès de violence. Elle me tapait, elle me donnait des claques, elle me pinçait, elle délirait. Donc, Derrière, effectivement, cette prospérité de façade, il y avait une crise grave dans le couple. Il ajoutera d'ailleurs devant les mêmes gendarmes, à la fin, on gardait tout pour nous.
Alors, comme la France entière, les parents d'Alexia, dont vous venez de parler, vont être foudroyés en apprenant que leur gendre est le meurtrier de leur fille, ce gendre qu'ils ont aimé et continuent à aimer comme un fils, dira même leur avocat Jean-Marc Florent. Des parents qui vont vivre un douloureux face-à-face, une confrontation judiciaire où Jonathan va s'agenouiller, demander pardon et livrer sa première vérité. A tout de suite dans l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL.
On se retrouve dans l'heure du crime où l'on évoque ce soir le cas Jonathan Daval, le mari meurtrier d'Alexia, enquête bouclée donc la semaine dernière, procès prévu dans quelques mois. Jonathan Daval a éberlué la France en révélant que c'est lui, le mari en pleurs, qui a tué son épouse. Puis il est revenu sur ses aveux, a nié le crime, a même accusé son beau-père d'avoir étranglé Alexia, a décrit, détail à l'appui, un sordide complot de famille. Il aurait assisté à cette scène d'étranglement, de quoi troubler un peu plus l'image de ce jeune informaticien qui, après avoir avancé le scénario d'une disparition, déplace désormais le poids du crime sur d'autres membres de la famille. Des déclarations fragiles et bientôt scandaleuses, destinées de toute évidence à se dédouaner. Dimitri Ramelot, envoyé spécial de RTL.
Le juge d'instruction en charge du dossier a annoncé la nouvelle ce matin à la famille d'Alexia, ses parents, sa sœur et son beau-frère. Il leur a livré chacun leur tour dans son bureau les détails du procès-verbal de l'audition de Jonathan Daval fin juin. Le mari se disculpe donc totalement et il accuse le clan familial. Selon lui, la veille de la disparition de sa femme lors de la soirée raclette chez les parents d'Alexia, elle aurait été prise, je cite, d'une nouvelle crise d'hystérie. Le mari de la sœur de la banquière, Grégory Gay, l'aurait alors étranglée en tentant de la calmer. Suite au décès de la jeune femme de 29 ans, tous auraient décidé de sceller un pacte pour étouffer l'affaire. Enfin, Jonathan Daval, qui était entendu à sa demande par le juge d'instruction, a expliqué ne pas avoir participé à la dissimulation des preuves et nie une nouvelle fois avoir brûlé le corps, un acte qu'il attribue là encore à Grégory Gay.
6 mois après ses déclarations et ses dénégations, le 7 décembre 2018, Jonathan Daval est confronté au tribunal de Besançon à sa famille. Il continue à nier, maintient ses accusations contre son beau-frère, puis craque. Enfin, après un face-à-face avec sa belle-mère, Isabelle Fouillot, qui va provoquer chez lui un examen de conscience.
C'était une épreuve de rencontrer un an après, de visu, Jonathan. Je lui avais amené une photo d'Alexia et du chat Happy. C'est ce qui a permis de déclencher la vérité. En ayant bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant 10 ans, que c'était notre fils, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour eux et qu'on l'a toujours aimé et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était. Et les accusations contre Stéphanie et Grégory étaient tellement odieuses que voilà. Il a avoué, il est revenu.
C'est une belle satisfaction, je crois qu'il faut le dire quand même pour
oui.
vous.
Oui, oui, faut le dire. Faut moi, dire. Je c'est suis une... soulagée surtout. Voilà.
La libération de la parole pour Jonathan Daval. Nicolas Bastuc, vous êtes l'invité de l'heure du crime. On vient d'entendre la maman d'Alexia, elle se dit soulagée dans cette épouvantable histoire familiale, ce drame. Est-ce que ce jour-là, lors de cette confrontation, Jonathan Daval est enfin apparu, si je puis dire, sans masque ?
Oui, c'était il y a un an, le 7 décembre 2018, au palais de justice de Besançon. Et c'est Maître Florent, l'avocat des parents d'Alexia, qui a eu cette idée d'une confrontation. C'est vrai que Jonathan a menti 2 fois, d'abord en disant que ce n'était pas lui, et ensuite en mettant en cause son beau-frère, et non pas son beau-père, son beau-frère. Et Maître Florent dit ceci, si nous sommes capables de trouver les mots, si on fait appel à sa sensibilité, je suis sûr qu'il dira la vérité. Il y a 50-50 pour qu'il la dise. Et il l'a dite Non,
il
pas en
mis,
étant.
Il l'a mis du temps quand même.
Ah oui, parce qu'il a été d'abord confronté au beau-frère, qui manifestement qu'il n'appréciait guère. Et il a maintenu ses accusations. Il a été confronté à sa belle-sœur. Il n'en a pas dérogé. Et ça n'est que lorsqu'il a été confronté à sa belle-mère, qu'il aimait comme une mère, laquelle l'aimait aussi comme un fils, qu'il a craqué. Et il s'est passé cette chose absolument hallucinante. Il est tombé à ses pieds. Il a imploré son pardon. Et la maman d'Alexia lui a dit « Le pardon viendra peut-être plus tard », mais néanmoins, elle a pris sa main et elle l'a aidé à se relever. C'était, pour ceux qui étaient là, semble-t-il, une scène judiciaire tout à fait saisissante.
C'est une scène unique, même en matière de confrontation. C'est assez rare que les gens soient aussi proches les uns des autres. Et là, effectivement, Jonathan Daval va donner sa vérité. Que disent, Nicolas Bastuc, que disent les psychiatres qui l'ont examiné sur cette nature changeante, cette fragilité qu'il semble afficher de temps à autre ?
Alors, il y a eu trois expertises, hein, deux psychiatres et un psychologue. Alors, le premier psychiatre était, on va dire, assez lacunaire dans ses conclusions. On ne sait pas trop où il voulait en venir. Ce qu'il a dit, c'est que s'il était pénalement responsable, il présentait une dangerosité criminologique, une propension à la toute-puissance. L'autre psychologue n'était pas beaucoup plus éclairant. Il a dépeint une personnalité caméléon, capable d'adopter son discours. Bon, des choses très classiques.
Il était classique en matière de langage de psychiatre. Hein.
Oui. Le deuxième psychiatre qu'il a examiné, un peu plus tard, le docteur Jean Caterino, apporte un éclairage nouveau sur la personnalité de Daval. Ce qu'il dit en gros, c'est que Daval est un obsessionnel, un névrosé obsessionnel. Il explique que l'obsessionnel a en lui beaucoup d'agressivité, une agressivité souvent inconsciente, qui vient souvent d'ailleurs d'une haine du père. Et c'est vrai que Daval n'a pas connu son père, enfin en tout cas, il est parti très tôt, il ne s'est jamais occupé de lui. Et que cette agressivité a été refoulée, hein, et que cette organisation rigide que présente l'obsessionnel, eh bien... garde contenu cette agressivité et qu'un jour, eh bien, elle est capable d'exploser telle une cocotte minute, et c'est ce qui est arrivé.
Ça, c'est le terme qui a été employé, la cocotte minute, la bombe à retardement, hein, parce qu'il y a un lot de frustration autour de Jonathan Daval qui expliquerait peut-être ce passage à l'acte extrêmement brutal.
Oui, il y a d'abord des symptômes, hein, il souffre de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, il se lave les mains 10 fois, il a d'ailleurs été suivi par un psychologue quand il avait 14 ans, c'est un maniaque de la propreté, un peu radin, disons-le, ça ressort aussi de la procédure. Et puis, il se livre à des rites de vérification. Il est capable de vérifier 10 fois si le gaz est bien coupé. Si... Donc tout ça, c'est des traits de l'obsessionnel. Et effectivement, il avait en lui, semble-t-il, beaucoup de violence, d'agressivité, de haine. Et cette violence a explosé. Il dira au psychiatre la chose suivante. Juste avant qu'il passe à l'acte, elle m'a dit « t'es pas un homme ». Elle m'a frappé avec les pieds et les mains. Elle m'a poussé. Alors je l'ai bloqué, je l'ai étranglé, je l'ai frappé. Ce que je voulais, c'est qu'elle se taise.
Jonathan Daval, l'obsessionnel, qui a avoué et qui attend désormais son procès. Mais quel visage présentera le meurtrier d'Alexia à ses juges ? A tout de suite dans l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL.
Appel non surtaxé.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Retour dans l'heure du crime sur les traces de Jonathan Daval, meurtrier d'Alexia, son épouse. Un crime brutal et hélas trop de fois déjà vu. Jonathan a tué Alexia à la suite d'une énième dispute, un rapport sexuel qu'il aurait refusé à son épouse. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. La suite de l'affaire, elle est hors norme, puisque pendant 3 mois, Jonathan Daval aura esquivé toute responsabilité, se réfugiant derrière la tristesse, l'affliction et le silence, avant d'être confondu par les vérifications pointilleuses et patientes des gendarmes. C'est donc cet homme dont le comportement n'a jamais cessé de nous étonner, capable de la plus grande gentillesse comme de donner la mort, qui va être jugé, procès qui se tiendra en cour d'assises à Vesoul, sans doute dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Reste à savoir sous quelle qualification pénale Jonathan Daval sera traduit devant la justice, ce qui changera évidemment le quantum et l'appréciation de la peine. Meurtre sur conjoint ou violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, écouter la présentation que faisait son avocat, Randall Schwerdorfer, de son client Jonathan Daval, il y a quelques mois.
Avec mon associé Metz Patafora, nous avons assisté Jonathan lors de sa dernière audition. Jonathan a tenu à s'exprimer, à dire ce qui s'était réellement passé. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Il est dévasté. Il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille, pour la famille d'Alexia, pour qui il a une affection sans limite. Il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour. Et nous nous retrouvons face à un drame terrible. Voilà.
Quelles sont les circonstances de son aveu ?
Les circonstances de ses aveux, c'est que ça... Je pense, nous pensons, que de toute façon, il était au bout, qu'il fallait que ça sorte, qu'il fallait qu'il dise les choses, qu'il ne pouvait pas les garder pour lui. C'est un garçon qui a pensé au suicide, c'est un garçon qui a pensé à plein de choses, c'est un garçon qui ne savait plus comment faire. Entre l'homme et l'image, il est toujours difficile d'être à la hauteur d'une image, voilà. Il a essayé de l'être, d'être ce gendre parfait, il n'a pas réussi.
Il n'a pas réussi, il a perdu, dit l'avocat de Jonathan Daval, Nicolas Bastuc, invité de cette heure du crime. Cette conclusion d'avocat cadre-t-elle avec la personnalité décrite par les experts et les enquêteurs et ces expertises que vous avez pu consulter ?
Bon, Maître Schwerdorfer a regretté ce terme, hein, accidentel. Ce n'est plus ce qu'il plaide aujourd'hui. Il ne plaide pas l'accident puisque des coups ont été portés, des coups... extrêmement violent, qu'ont révélé les légistes. Voilà. Ce que va tenter de faire la défense, c'est de requalifier les faits qui la procédure actuellement est ouverte pour meurtre aggravé, c'est-à-dire meurtre sur conjoint. Daval encourt la perpétuité. Ce que va tenter de faire Maître Schwerdorfer, c'est de requalifier ces faits en ce qu'on appelle les coups mortels, c'est-à-dire les violences étaient volontaires, mais l'intention de donner la mort n'y était pas. Voilà. C'est le débat qui va se jouer là, dans les prochaines semaines.
Mais vous confirmez, Nicolas Bastuc, il a perdu, il a essayé de jouer son va-tout en mentant, en élaborant une stratégie qui n'a pas cadré, puis il a perdu, il se retrouve en prison aujourd'hui.
Il a tout perdu, j'ai envie de dire, en ayant commis l'irréparable. Voilà, il a perdu, effectivement, sur un plan judiciaire. Mais son mensonge, de toute façon, ne tenait pas. Ni les expertises ne collaient. Ses déplacements nocturnes révélés par le tracker de la voiture, il n'y a rien qui collait. Donc, il allait au suicide judiciaire, si j'ose dire, en maintenant de telles dénégations.
Alors, vous avez décrit tout à l'heure, notamment lors de la confrontation, quelqu'un qui était totalement en larmes, à genoux, devant sa belle-mère. Sait-on, aujourd'hui, Nicolas Bastuc, dans quel état se trouve psychologiquement Jonathan Daval ?
Il supporte mal sa détention, si l'on en croit les expertises. Il a beaucoup maigri, voilà, et je crois qu'il attend avec beaucoup d'appréhension le procès, d'abord la confrontation à nouveau avec sa famille, la médiatisation hors norme qui s'annonce, et puis surtout aussi le sort judiciaire qui l'attend. Il risque très gros, on vient de le dire, la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est vrai que le contexte est pour le moins défavorable en ce qui concerne la défense. On parle beaucoup de féminicide, de violences faites aux femmes, et là, pour le coup, on est face à un exemple. Alors, les choses seront débattues. Maître Schwerdorfer dit, nous ne sommes pas face à un féminicide. C'est pas du tout le dossier. Je pense que l'accusation, au contraire, va soutenir cette vision du dossier.
Alors, qu'est-ce qui va se passer, finalement ? Quelle va être la ligne de défense du côté de Jonathan Daval ? Quels vont être les choix stratégiques à opérer lors de ce procès ?
Alors, un choix très, très difficile. Daval a tout résumé au psy. À la fin, il dit donc au dernier psychiatre, c'est dur de dire qu'Alexia était dure avec moi alors qu'elle n'est plus là pour en parler. Et effectivement, tout est dit et tout le dilemme qui attend la défense est résumé, je trouve, dans cette phrase, parce que Ça va être très difficile de faire le procès d'Alexia, de dire qu'elle était violente, qu'il était martyrisé.
Oui, ça, de charger la victime, finalement.
Faire le procès de la victime, c'est toujours très, très, très périlleux.
À haut risque devant une cour d'assises.
À haut risque, et surtout dans le contexte, encore une fois, actuel, où l'on lutte légitimement contre les violences faites aux femmes. Et en même temps, s'il reste passif, eh bien, il risque gros également.
Bien
donc,
sûr.
La ligne de crête est très compliquée.
Très compliquée, très difficile. Est-ce que vous pensez, Nicolas Bastu, qu'on peut attendre du nouveau de ce procès, qui peut-être pas une autre vérité, mais en tout cas que des éléments inconnus peuvent surgir lors de l'audience? C'est souvent le cas aux assises. Hein.
Mais oui, c'est sûr. Nul ne peut prédire ce qui peut se passer. Ce qui est clair, c'est que on va révéler ce qu'était la vie de couple d'Aval et la réalité de leur vie privée.
Donc il va y avoir une espèce de grand déballage, c'est ça qu'on peut dire. Hein.
Mais oui, je le crains.
Et ça, je pense que Jonathan Daval, et y compris sa belle-famille, le craignent aussi.
Tout à fait, je pense que les parents d'Alexia sont prêts, sinon à pardonner, en tout cas peut-être à commencer à comprendre, à partir du moment où on ne s'allie pas, et on peut l'entendre, l'image de leur fille.
Encore une petite question, Nicolas Bastuc, en quoi cette affaire, quel que soit le jugement qui va intervenir lors du procès d'assises, est et restera stupéfiante?
Je crois que ce qui rend cette affaire vraiment incroyable, c'est le mensonge. Mmh. Voilà, le mensonge de départ, cette comédie forcée, volontaire, à laquelle Daval a dû se prêter, ces revirements, et puis quand même le suspense, vous le soulignez lors du lancement de l'émission, et c'est vrai, sur les faits, et notamment sur la nature des coups qui ont été portés. Était-il violent? Ouais. Était-il brutaux? Ça, les légistes semblent le dire. Il y aura un débat là-dessus.
Il y aura un débat et nous suivrons évidemment sur RTL ce procès aux assises à Vesoul, qui sera d'ailleurs suivi vraiment de manière très spectaculaire par les médias, je pense. Ça va être un grand moment de judiciaire. Merci Nicolas Bastuc d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à toute l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Marc Bisset à la réalisation. Je vous retrouve demain soir, 20h, secret ou scandale d'État, le naufrage du Bugalette Brace.